France Inter.
CO2 mon amour, bonjour Denis Chessou. Vous nous emmenez aujourd'hui en Corrèze et dans le Lot avec un écrivain.
Bonjour Éric Delvaux. Eh bien oui, ça va être Christian Signol et on va prendre l'air avec lui, vous l'avez compris, dans le Limousin. On vous retrouve à 19h. Bon après-midi Éric.
Merci, à tout à l'heure.
Le plus important, Gustave, ce sont les enfants.
Oui, bien sûr, Gisèle.
Arrêtez de vous tourmenter comme ça. Hein. La forêt n'est pas si dangereuse. À part, évidemment, s'ils ont la malchance de tomber sur des loups.
Des loups, il y a des loups.
CO2, mon amour.
Ça fait 3 ans qu'on les a réintroduits dans les forêts du Berry. Non,
mais vous êtes un grand malade. Pourquoi vous avez réintroduit le loup?
Ah, c'est pas moi, les écolos. Personnellement, j'avais voté pour l'ours. Ça ramène plus de touristes.
Oh, des loups. Jésus-Marie-Joseph, des loups.
Denis Chessou.
Il y a des loups.
Mais oui, ça amorce merveilleusement bien donc notre ouvrage de Christian Signol qui s'appelle D'une beauté sauvage et qui parle des loups. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir. Donc dans CO2 mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Élise Christophe est à la technique, Camille Blanès est notre collaboratrice et Xavier Pestugia réalise l'émission. COP de faim à Bellem, l'eau bout entre 90 et 100 degrés, et puis s'évapore pour nous retomber sur la calebasse comme autant de chutes du Zambèze ou du Niagara. Alors d'accord, il reste de la marge avant que la température de l'océan transforme tous les gentils baigneurs en œufs durs et les chalutiers des pêcheurs d'Islande en food trucks, fish and chips. Mais quand nos névés, langues de glace et illusions auront fondu, quand ne descendront plus du mont Kenya ou de l'Himalaya que de misérables pipis de panthères sauvages, comment feront les peuples de la plaine et leurs animaux pour boire et vivre? Alors, mesdames et messieurs, les chevaliers du zodiaque de la COP 30, je sais qu'il est dur de se tremper l'esprit, le corps et les papades dans l'eau sale des égoïsmes politiques nationaux, mais il va falloir regarder plus loin et ne pas constater, désolé, que les États pétroliers ont encore gagné. Alors nous, on veut bien faire notre petite part, mais peut-on véritablement compter sur vous? Il ne s'agit plus d'améliorer l'existant, de coller des rustines de luxe, mais de franchement bifurquer. Et là, ça fait peur à toutes les grenouilles que nous sommes, qui s'habituent à la chaleur qui monte dans la casserole. Dans ce même bain commun, l'espèce humaine est-elle parvenue au bout de sa folie? Allez savoir, les déserts s'agrandissent, à quoi bon y prêcher? Chez nous, un ministre délégué chargé de la transition dite écologique, Mathieu Lefebvre, pose son premier acte fort dans les Landes. Rassurer les chasseurs de palombes et l'envie de rétablir les chasses traditionnelles comme les pentes qui tombent sur la gueule des alouettes en contradiction avec la directive européenne. Ça, c'est de la vraie écologie de terrain. Nous voilà rassurés. Kiev meurt sous les bombes, il a fait 25 degrés à un moment en novembre et la seule chose qui passionnerait notre jeunesse serait la sortie du nouveau Call of Duty, la franchise de jeux vidéo la plus vendue. Les cataclysmes climatiques s'enchaînent et les influenceuses à bouche de mérou, réfugiées à Dubaï, exposent leurs seins siliconés sur TikTok pour vendre leurs masques de beauté. Eh ouais, ainsi va le monde. Imprévoyant, soumis, arrogant, totalement cupide et aussi génial que la Terre est parfois si jolie. Mais nos jeunes sont conscients, agissent, valent mieux que tout cela. Mais évidemment, ils ne sont pas aux manettes à la place de ceux qui détruisent le vivant. Alors ça invente, hein, vraiment ça invente et ça secoue les plumes dans beaucoup de territoires que j'aime mettre en avant. Tenez, j'ai pris l'air froid et l'air bon d'ailleurs de la vallée de la Bruche dans les Vosges cette semaine. J'ai rencontré des femmes, des hommes et des jeunes, une mentalité, un bouillonnement à faire fondre la neige fraîchement tombée. Ils sont habités par la liberté et le fait de jouer collectif, une réinvention locale et sociale, un foisonnement de circuits courts, d'idées, de liens, de pensées, d'actions alimentaires. D'ailleurs, ils font du bio sans passer par les organismes attitrés. Ils pensent localement leur monde d'après pour éviter qu'il soit pire que celui d'avant. Jamais loin de leurs mains, comme un phare, ils ont une seule arme, eux. Une paire de jumelles pour regarder les oiseaux, les bêtes, la nature. Et cela permet de porter au loin le regard. Alors un homme observe, vit, écrit la nature, et ben c'est Christian Signol, hein, donc son dernier ouvrage, Une beauté sauvage, nous parle de la confrontation liée au loup dans le Limousin, donc direction dans quelques instants les bords de la Dordogne, le Causse et puis la Haute Corrèze pour tirer le portrait de cet homme.
The climb on the way up. sorry that it's hard when you go away. And I'm sorry that it hurts to be loved. I'm sorry that it hurts to be
Parcells interprétée donc Sorry, choisie par Valentine Chez Debois. Eh bien, c'est le moment d'aller prendre l'air avec Christian Signol. Il me semble qu'on n'est pas loin de la Dordogne.
Quand j'étais adolescent, je venais en bicyclette au bord de la Dordogne pour me baigner, évidemment, l'été, hein, pendant les vacances, mais aussi pour apprendre à pêcher à la mouche, une occupation qui m'est très chère aujourd'hui, puisque je pêche quand je peux.
Et vous fabriquez vos mouches vous-même.
Et je fabrique mes mouches moi-même dans un petit atelier que j'ai là-haut dans ma maison du Cos.
Ah ouais. Mais alors aussi parce que vous avez fréquenté quelques auteurs américains qui pêchent eux-mêmes à la mouche.
C'est surtout Jim Harrison qui m'a donné envie de pêcher à la mouche, mais aussi les autres grands écrivains comme Norman MacLean, par exemple, qui avait écrit La rivière du sixième jour, adapté par Robert Redford.
Et au milieu coule une rivière.
Au milieu coule une rivière avec Brad Pitt et d'autres. On le voit à un moment
Brad
donné.
Brad Pitt avait un lancer incroyable.
Un lancer, un fouetté extraordinaire. On voyait le fil, la soie étinceler dans la lumière du matin.
Ouais.
C'était quand il prend une grosse truite, il la suit tout le long de la rivière, il passe sous l'eau, il la récupère en bas d'une cascade.
Là, pour le coup, moi je me souviens de cette expression que vous aviez employée, la rivière est marchande, autrement dit, ça veut dire qu'elle est pleine, qu'elle est voluptueuse, qu'elle a des eaux qui sont hautes, donc les bateaux, les gabarres pouvaient fonctionner.
Exactement, à l'époque des bateliers, il fallait attendre l'eau marchande, c'est-à-dire que l'eau arrive avec les pluies de printemps ou d'automne. Sinon, ils ne pouvaient pas descendre à la rivière parce qu'il y avait trop d'obstacles et c'était dangereux pour les bateaux.
Christian Signol fait partie des écrivains peut-être les plus achetés et lus en France, mais aussi les plus discrets, les moins médiatisés, et il ne se plaint d'ailleurs de rien. En 1984, son premier roman « Les cailloux bleus » se vend à 100 000 exemplaires, et ça, il s'y attendait absolument pas, chiffre qui ne redescendra jamais ensuite. Alors évidemment, ça vous change la vie de l'employé de la mairie de Brive qu'il était. Une phrase de Rilke lui va très bien. Qu'est-ce que le destin, sinon la densité de l'enfance ? Et Signol est écrivain par son enfance. Ces deux pôles, ces deux aimants, sont le Causse de Martel dans le Lot et la belle Corrèze, celle de la Dordogne, comme de la haute Corrèze des Mille Vaches ou des Monélières. Enfant de la vallée, il a rêvé de ne pas s'en éloigner. Et pourtant, ses parents lui disaient « il faut partir, il faut aller dans les grandes villes ». Signol n'a eu de cesse que de ne jamais couper de ce monde où il a été si heureux. Alors, il a besoin de l'odeur du calcaire, comme sous le soleil, qui fait respirer le Causse, ou de l'humus des vastes forêts corréziennes. Alors, c'est simple, hein. Si vous retirez le Causse, les forêts, les sources, les rivières, il n'y a plus de Signol, voilà. Alors, il sait qu'on change de civilisation, alors aussi, il veut réinventer la réalité du monde, car celle d'aujourd'hui ne lui est pas véritablement supportable. Certains diront cliché du roman campagnard, par nostalgie des temps anciens et de la vie rude des provinces françaises, Non, c'est trop simple. Signol n'a jamais exalté le repli sur son bout de territoire. Et au contraire, il tente de viser l'universel comme il peut en artisan. On part entre le Lot et la Corrèze avec Christian Signol qui vient d'écrire donc un nouvel ouvrage, une beauté sauvage, c'est chez Albin Michel. Et on parlera des loups aussi d'ici quelques instants.
C'est un peu mon univers d'enfance tout simplement, hein, puisque mes grands-parents étaient originaires du Cos, de Martel ou de Grandmain. Qui est une terre évidemment très aride, calcaire, très difficile à vivre, parce qu'ils vivaient de rien. Ils n'avaient rien, ces grands-parents. Et puis en bas, dans la vallée, c'est la rivière. Et puis un peu plus loin, si je puis dire, il y a aussi la forêt. Là où, quand j'étais enfant, on allait chercher les champignons, et où mon grand-père, qui était boulanger, coupait du bois pour son four, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des fours à bois.
Et vraiment, tout au long de votre œuvre, c'est un peu aussi un message, j'allais dire, parallèle à celui de Jean-Marie Pelt, à savoir d'éviter la trop grande coupure entre l'homme et la nature.
Exactement. Malheureusement, aujourd'hui, on ne vit plus au contact du monde naturel, ou très très peu. On vit surtout dans sa représentation, c'est-à-dire ce qu'on voit sur les ordinateurs, les tablettes, la télévision, tout ce qu'on peut imaginer, des nouveaux systèmes de communication. Mais le contact direct, lui, avec le monde, a été rompu. Et c'est, d'après les philosophes, quand même, le plus grand drame du siècle dernier, c'est que l'humanité a rompu ses liens avec la nature, et qu'en agissant ainsi, elle a du même coup rompu ses liens avec ce qui avait assuré sa permanence pendant des siècles.
Attention, on va essayer de mettre les pas où il faut pour pas que la descente soit trop dure. Voilà. Là, on est sur la grève. Et donc, avec ces couleurs, alors à la fois un peu brunâtre, vert foncé.
La falaise, le de la falaise, oui. Ouais. Et les petits chênes nains au-dessus de la falaise.
Bon, et puis nous avons nos amis les hérons.
Oui, il y en a de plus en plus, alors qu'il y a 20 ans de ça, il n'y en avait pas, très peu. Aujourd'hui, il y en a un tous les 200 mètres à peu près. Et évidemment, avec les buses, les faucons, tous ces oiseaux-là, qui hantent les éperviers de la Dordogne, comme disait Hugo Frey, oui. Évidemment. Hein. Et donc, il y en a de plus en plus, ça doit venir vraiment, essentiellement du changement climatique. Le fait qu'ils ne remontent plus là-haut, ils restent ici.
C'est sédentarisme.
Voilà, exactement. C'est quand même assez réjouissant, tout ça. Ça fait du bien de voir de plus en plus d'oiseaux au bord de l'eau, quand même. Ouais. Et nous avons devant nous, regardez là, ces insectes blancs, qui sont des plécoptères. Ce sont des sedges, en anglais, des plécoptères. Et nous, on appelle ça des queues vertes, parce que l'extrémité de l'abdomen est vert. Ce sont les œufs de ces plécoptères. Que les poissons, les truites... Oh, regardez, oui, il y en a beaucoup, hein, c'est une éclosion gigantesque. Mais les truites et les ombres n'aiment pas les queues vertes, bizarrement. Prennent beaucoup les éphémères, comme les Mars Brandt, c'est-à-dire les grosses mouches de Mars, ou les Baitis rhodani. Mais ces sedges-là, ils ne les aiment pas, ils ne les prennent pas. Or, pourtant, au mois d'avril, sur l'eau, il n'y a que ça. Regardez, il y en a des milliers et des milliers, centaines de sedges.
Et alors, le manuel de la pêche, soit à Dordogne et ailleurs, par Christian Signol, c'est pour quand, ça?
Je ne ferais pas l'affront aux grands spécialistes, entomologistes, de venir sur leur terrain.
Voilà, tout à fait. Et hop là! Alors ça doit être aussi le paradis des martins pêcheurs. Alors, c'est de temps
il y a beaucoup de martins pêcheurs. Il y a de plus en plus aussi sur la Dordogne des loutres qui sont revenus, alors qu'il n'y en avait pas avant. Très très peu. Et nous avons aussi là-haut, sur le petit train de Martel, l'ancien train de Martel.
C'est celui-là qui vient de siffler là?
Oui, c'est celui qui vient de siffler et qui fonctionne pour les touristes. L'été surtout. C'est pas la route là-haut, mais la voie ferrée est sous la falaise, là, voilà.
Alors, l'histoire de la rivière Espérance, ça a été à force de la contempler, c'était... je sais que vous avez toujours un travail donc, de documentation, un travail historique, vous allez sur le terrain. On a Carena qui est carrément pas loin, là aussi, donc... mais c'est né comment, cette saga?
C'est né du besoin, une fois, pas adolescent, mais adulte, de retrouver cette trace-là, cette piste, finalement ce paradis que j'avais perdu tout simplement, puisque étant parti pensionnaire au lycée de Brive à l'âge de 12 ans, dans une sorte d'emprisonnement dont je souffrais beaucoup, et même adulte plus tard, plus loin, en faculté à Limoges, tout ça, c'est dû donc à un besoin de revenir vers cette source-là, qui m'était familière depuis toujours, finalement. Et pour me l'approprier définitivement. Parce que l'écriture, ça sert à ça. Oui. Ça sert à s'approprier les choses définitivement.
C'est-à-dire, dans votre cas, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire rattraper le temps perdu et le rendre éternel.
Et le rendre éternel. Je crois que la littérature est une lutte perpétuelle contre l'oubli et le temps.
Puis Christian, il y a quand même cette odeur de la Dordogne.
C'est l'odeur typique de la Dordogne que je connais depuis mon enfance. C'est à la fois une odeur d'eau, de sable, de boue, de limon. Ouais. Un peu une odeur légèrement douceâtre, comme ça. Et qu'on ressent encore plus le soir, c'est-à-dire vers 7-8 heures, au moment, en été, au moment où le jour bascule vers la nuit. Et où les parfums de la journée qui ont été saturée par le soleil, commence à ressurgir avec plus de vigueur dans l'air et d'humidité.
Ils ont été emprisonnés et après, ils se relâchent.
Ils se relâchent, exactement. C'est à la fois le sable, le limon, la boue, l'eau, un peu la pierre, un peu les feuilles, un mélange de tout ça.
On l'appelle parfois la montagne Limousine. Ce grand plateau granitique en bordure du Massif central est l'un des plus anciens reliefs du Limousin et le plus élevé aussi. Une altitude comprise entre 500 et 900 mètres qui fait du plateau de Mille Vaches un décor privilégié.
Oh là, Christian Signol. Alors là, on a changé de lieu parce qu'on n'est plus sur le Lot. On a traversé et là, nous sommes sur le plateau des Mille Vaches. Donc, on est en pleine Corrèze avec un paysage qui est différent parce qu'on a en fait quitté le calcaire. On est davantage sur du plateau granitique ici.
Oui, absolument. Granitique, puis avec des arbres différents quand même. C'est-à-dire des chênes, des châtaigniers, des douglas, des ormes. Enfin, la vraie forêt Limousine, quoi, que j'adore.
Il peut arriver ici de marcher des kilomètres sans rencontrer personne, même en prenant le temps de s'arrêter.
On a vraiment l'impression d'être dans un paradis terrestre où rien n'a été touché.
On ne croise pas beaucoup de monde dans ces petits chemins-là, hein. C'est vrai.
Alors Christian, vous êtes aussi un homme qui vivait avec véritablement les saisons. Vous les suivez, vous, j'allais dire, de 15 jours en 15 jours. Enfin, voilà, vous savez toujours à quelle saison donc, on est précisément. Et ça vous réjouit, quoi, tout ça?
Ça me réjouit, d'autant plus que pour un romancier, c'est très intéressant, c'est très important, parce que ça permet, comment dire,
de renouveler les plaisirs,
et puis surtout de donner l'impression du temps qui passe, si vous voulez, en même temps, avec des images nouvelles. Parce qu'il y a des feuilles, il n'y a plus de feuilles, il fait chaud, il fait froid, vous voyez, donc. Et ça rend les scènes de roman encore plus vivantes, encore plus véridiques. C'est pour ça que je m'en sers beaucoup. D'autant plus que je les aime beaucoup, les saisons, c'est vrai. Mais moi, je préfère l'automne. Junot disait, j'aime beaucoup l'automne parce que c'est une saison tendre. Mais je le vois comme ça, oui. Nous, aujourd'hui, on est en automne, là. C'est une saison tendre. Il ne fait pas trop froid, il ne fait pas chaud. Ouais. Il y a de bonnes odeurs d'humus et de feuilles et d'écorce, tout ça. Et puis, on n'a pas froid du tout. C'est vraiment une saison tendre. Il avait trouvé le bon mot.
Ah, Christian, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le plateau des Mille Vaches, qu'est-ce que l'on peut dire?
On peut dire que c'est un îlot de forêt. C'est-à-dire entre la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne, c'est un îlot de forêt où il y a très peu de population, avec des arbres magnifiques, beaucoup de verdure, mais aussi beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau de rivière, puisque les Mille Vaches, c'est les Mille Sources en réalité. La Vézère, la Corrèze, aussi la Dordogne un peu plus haut. Voilà, pour moi, le plateau Limousin, c'est une île verte que j'aime beaucoup. Elle est restée assez sauvage et inhabitée. Je crois que c'est 25 habitants au kilomètre carré. Et donc, on peut marcher pendant des heures et des heures sans trouver personne, sauf des loups.
Ça.
Voilà, c'est le problème. Non, c'est pas un problème. Non. Les loups sentent l'homme à 300 mètres. Ils n'attaquent que les bêtes fragiles ou blessées.
Avant d'aller dormir, je vais vous raconter le loup l'agneau. Oui.
Sinon, ici, là, quelle mentalité ce plateau des Mille Vaches a fabriqué? Comment il a infusé chez les gens, là? Parce que donc, c'est quand même bosselé, la Creuse n'est pas loin, là, on est vraiment sur cette très très belle Corrèze. Mais inévitablement, on sait très bien qu'on est à la fois la résultante de notre enfance et aussi des paysages qui nous habitent.
Oui, et puis c'est un peu la vie solitaire, les fermes sont très isolées. Et donc, les troupeaux sont d'autant plus difficiles à défendre. Hein. Ouais. Et puis, ces éleveurs vivent dans des conditions, encore une fois, difficiles, parce qu'ils sont soumis à la concurrence des moutons néo-zélandais. Ouais. Ils sont soumis également aux directives de Bruxelles, qui changent chaque année. Et donc, je dirais qu'ils sont un peu en état de survie. Vraiment, la vie est difficile pour eux, autant qu'elle l'est pour les loups, finalement. Parce que ces loups, s'ils attaquent des troupeaux, c'est uniquement pour leur survie, tout simplement. Et puis, à l'image un peu de ces éleveurs qui sont aussi en état de survie. C'est ça qui est compliqué quand même dans ces lieux-là.
Il y a deux survies.
Il y a deux survies dans ces lieux qui se heurtent, et qui se heurtent violemment.
Alors, faute de loup,
Là-bas, renard. Et là, petit renard.
Petit renard, oui.
Ah ouais, il est à allez, 150 mètres, on arrive.
Il y en a de plus en plus de renards parce que avant ils avaient une maladie qui s'appelait la gale des renards et ils se sont immunisés mutuellement. Et donc il y en a de plus en plus. Et ils sont, je dirais même qu'ils sont de moins en moins farouches, bizarrement.
Bah oui.
On en voit de plus en plus.
Oui, hop, c'est ça vrai. Y est, c'est une, bon quand même. Une distance de fuite, il est reparti là.
C'est vrai.
Restez avec nous, avec Christian Signol. On va poursuivre ce voyage avec son ouvrage d'une beauté sauvage. D'ici quelques instants, on va poursuivre cette virée sur le plateau des Mille Vaches.
Je mène les loups, mène les loups, laissez nos phares. Je mène les loups, mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez nos phares. Je mène les loups, loin de chez vous. Je n'irai pas au port de la rivière. Je n'irai pas si mon amant n'y est pas. Je n'irai pas au port de la rivière. Je n'irai pas si mon amant n'y est pas. Je mène les loups, mène les loups, laissez mon frère. Je mène les loups, mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, mène les loups, laissez mon frère. Je mène les loups, mène les loups, loin de chez vous. Les blancs s'en vont le long.
Camille sur France Inter dans CO2 Mon Amour, toujours avec Christian Signol et son ouvrage d'une beauté sauvage en fait qui exprime la difficulté de cette cohabitation où c'est presque impossible en ce moment, du retour de loup donc dans le Limousin, dans cette très très belle Corrèze. Alors évidemment c'est romancé et il y a toujours donc les couleurs qui sont charriées par Signol et les odeurs de la terre.
Les loups sont arrivés il y a quelques années, très peu d'années, hein, 4-5 ans, venant du Mercantour ou même des Abruzzes en Italie. Et évidemment, dès qu'ils sont arrivés dans le plateau Limousin, ils ont attaqué les troupeaux. Ce qui a créé beaucoup de conflits entre les éleveurs qui souffrent d'une situation économique difficile. Et puis les écologistes et la biodiversité qui défendent l'apparition des loups. Moi, évidemment, je suis un défenseur de la biodiversité parce que je pense que l'humanité n'a pas le droit, ni moral ni éthique, d'exterminer une espèce. Mais je pense qu'elle a le droit de la réguler. Et je comprends les éleveurs, parce qu'il m'est arrivé, moi, de voir des brebis égorgées, non pas par des loups, mais par des chiens errants. Mais je peux vous dire que quand on a vu ça une fois, on n'a pas envie de le voir deux fois. Donc je comprends la colère des éleveurs en même temps.
Des brebis parquées devant la préfecture, une action symbolique des éleveurs pour crier au loup. Depuis début juin, un nouveau prédateur a tué 42 brebis sur le plateau de Mille Vaches. Un coût économique et psychologique.
Quand on trouve des bêtes étalées à droite à gauche derrière des buissons dans le champ, et plus on avance, plus on en trouve, c'est assez choquant.
Alors ces loups, ils arrivent très souvent par le phénomène de dispersion, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont chassés de la meute.
Ils sont chassés de la meute, donc ils voyagent et puis ils créent, eux, leur propre meute. En général, c'est la louve qui arrive la première, puis ensuite un mâle arrive, et puis ils ont une portée, mais ça peut être une portée de 5 ou 6 louveteaux. Et donc c'est beaucoup, parce qu'au bout d'un an, c'est en fait 7 ou 8 loups qui vivent à cet endroit-là, et qui créent beaucoup de dégâts.
Mais il y a beaucoup de casses hein, quand même aussi chez les loups. Hein,
oui, parce qu'il y a 40% des louveteaux qui meurent la première année. Mais alors on explique quand même que c'est difficile de tuer une louve ou un mâle alpha, parce que ça provoque l'éclatement de la meute. Et s'il y a éclatement de la meute, il y a une multiplication des attaques. Donc ça devient vraiment, vraiment, vraiment difficile. Alors les solutions, évidemment, sont pas simples, mais je pense qu'il faudrait créer une ou deux brigades loups, brigades avec des gens qui sont chargés de surveiller les troupeaux et de devancer les attaques, si on peut dire. Également, leur fournir des patous, par exemple, parce qu'on a une enquête a montré que 5 patous dans un troupeau suffisaient à éloigner une meute. Non pas simplement un loup ou deux, mais une meute entière. 5 patous dans un troupeau. Le seul problème, si vous voulez, c'est que les patous, ça coûte cher. Ouais. C'est-à-dire non seulement à l'achat, mais surtout à l'entretien, parce que ce sont des grosses bêtes et ça mange.
Et puis, il faut qu'ils soient bien dressés aussi.
Et il faut qu'ils soient bien dressés, parce que ça crée des problèmes avec les touristes qui s'approchent trop des troupeaux.
Pour écouter des gens qui veulent nous expliquer qu'il faut mettre des mesures de protection, type des filets, type des chiens patous, ce n'est pas entendable pour les agriculteurs, pour les éleveurs. C'est inutile puisque le loup attaque quand même. Donc les mesures d'urgence, c'est de prélever ce loup.
C'est donc toute cette cohabitation. Et en fait, on se rend compte que, à la fois dans votre livre, que les éleveurs se sentent quand même seuls, même s'il y a un syndicat donc, d'éleveurs qui réunit un petit peu tout le monde, mais ils sont tous quand même devant la même problématique. Et en parallèle, aussi vous parlez de cette famille de loups, avec ce loupeau donc, et cette Léna, qui sont aussi seuls en définitive.
C'est vrai, j'ai essayé de leur donner une vie intérieure à ces loups, comme l'avait fait Jack London dans Cro-Blanc, c'est-à-dire de les voir vivre en direct, quoi, avec leurs yeux, avec leur regard, avec leurs émotions, sans plonger dans l'anthropomorphisme, il ne fallait pas.
Alors c'est une histoire aussi avec deux couples, hein, enfin trois couples. Il y a Jeanne et Damien, donc on va dire ce sont les éleveurs. Oui. En face, donc il y a Lucas qui travaille à l'Office français de la biodiversité.
Dans l'Office national de la biodiversité.
Ah ouais, alors, il est là pour prendre des coups, hein, parce qu'il ne peut pas répondre en plus. Donc,
il ne peut pas répondre parce que, bon, en fait, il n'a pas d'armes, si vous voulez. Les éleveurs sont en colère, la préfecture, le plus souvent. Pas trop quoi faire, hein, oui, parce qu'il y a des manifestations dans le pays Limousin, là où à Tulle, par exemple, quand il y a des manifestations, le préfet est obligé de mettre à un bout de la ville les éleveurs et à l'autre bout de la ville les représentants de la biodiversité et les écologistes. Hein. Ça se passe pas très bien, ça se passe même, c'est très violent comme affrontement, mais encore une fois, c'est un problème de survie pour les uns et pour les autres.
Enfin, vous avez eu cette chance de ne pas être coupé du tout de la nature. Et vous savez très bien que le grand drame, il est là, quoi.
Oui, mais je l'ai voulu. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de rester quand tous mes amis sont partis, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, non pas par plaisir, mais simplement pour trouver du travail. Et moi, j'ai choisi de rester. Ça n'a pas été facile, hein, parce que le travail, justement, se trouvait de plus en plus dans les grandes métropoles et tout ça. Mais mes parents ont compris très tôt que c'était quasiment fini dans les campagnes et qu'il fallait partir, quoi. Sauf que moi, je suis resté dans une ville moyenne et que je reviens toujours là, dans ma campagne, là. Une maison que j'ai gardée dans le Quercy et dans le Limousin également. Disait Conrad Lorenz, c'est le grand drame du siècle dernier. C'est-à-dire que l'humanité a rompu ses liens avec la nature et qu'en agissant ainsi, elle a du même coup rompu l'équilibre qui, pendant des siècles, avait assuré sa permanence. Et je le sens comme ça. Michel Serres, lui, dit « Le néolithique s'est achevé en l'an 2000 ». C'est-à-dire tout ce qui était basé sur les liens avec le monde naturel, la paysannerie et tout ça, à partir de l'an 2000, avec l'arrivée d'Internet et le progrès comme on le connaît aujourd'hui, tout ça s'est arrêté à ce moment-là.
Lorsque j'étais jeune, puisque moi je suis né alors pendant le néolithique tardif, quand j'étais jeune, que je passais sur la route, je voyais encore dans les champs peuplés. C'est-à-dire les paysans travaillant à la main, etc. Et les champs étaient peuplés. Aujourd'hui, si vous passez dans une autoroute ou une route, les champs sont déserts. Il n'y a plus personne. Et par conséquent, cette désertification progressive du monde rural a changé la langue, a changé les mœurs et a changé surtout notre rapport au monde. Vous n'avez plus de rapport au monde que le rapport vacancier, que le rapport idyllique du bord de la mer ou de la montagne, etc. Mais cette espèce d'expérience directe de la nature et du monde paysan, la génération d'aujourd'hui ne l'a plus.
Et ça, je le ressens vraiment intimement.
Alors notre loup, il n'a pas forcément eu de peau, parce qu'en fait, c'est un symbole christique à l'origine, qui était associé au diable.
Il dévorait l'agneau. Bah ouais, évidemment. Et alors, loi de 1883, là qui sonne le glas de l'espèce.
Oui, parce qu'à ce moment-là, une loi a permis au préfet de payer des gens qui tuaient les loups. Et donc, les paysans se sont mis à chasser les loups et à ramener la dépouille à la préfecture qui leur donnait un montant assez important pour eux, parce qu'ils n'avaient pas d'argent liquide. Donc, à partir de 1883, la population des loups a baissé constamment. Le dernier loup en France a été tué en 1934 et en 1917 dans le département de la Dordogne, pas loin d'ici. Et donc, ils ne sont réapparus finalement que dans les années là, 2020.
Novembre 1992, ça a été ça, de Roumer-Contour.
Et dans la forêt limousine, là, nous sommes il y a simplement 4 ou 5 ans, oui, venant du Mercantour. C'est vrai.
Oui. Ah oui, là, on est sûr.
Et donc des Abruzes.
Oh oui, ils sont italiens, quoi.
Ils sont italiens.
Et alors, vous rappelez aussi dans votre livre que, en fait, ça ne fonctionne pas si mal que ça. C'est-à-dire qu'on a un autre rapport culturel au loup. Dans d'autres pays, et en particulier aux Abruzes, on a réussi à faire du tourisme du loup, en fait.
Oui, c'est admis, c'est une cohabitation qui fonctionne. Le relief n'est pas du tout le même. Et donc, c'est beaucoup plus facile de surveiller des troupeaux dans les Abruzes que de surveiller un Limousin. Et même dans le Mercantour, encore une fois, c'est beaucoup plus facile. Je ne désespère pas. Je pense que, de toute façon, la cohabitation va s'installer d'une manière ou d'une autre, hein, forcément. Hein. Parce que, bon, les éleveurs, ils obtiennent quand même des concessions du préfet qui leur a donné l'autorisation il y a 2 mois de pouvoir tirer, mais uniquement si le loup attaque le troupeau. Or, les éleveurs, eux, demandent de pouvoir faire des battues pour tuer des loups. Et le sous-préfet, pour le moment, a refusé, ce qui provoque des manifestations ici sur le plateau, là, de plus en plus fréquentes d'ailleurs, notamment encore une hier.
Et ce Lucas qui fait comme il peut, donc évidemment face à ses éleveurs, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incompréhension, il évite en fait de parler d'équilibre à préserver entre les espèces. Il évite de parler de la chaîne sanitaire entre les loups, les chevreuils, les sangliers, les petits mammifères, les genettes, les campagnols, on peut aller jusqu'aux amphibiens, aux reptiles, aux oiseaux. Et pourtant, il y a une chaîne quand même qui est indispensable.
Bien sûr,
et le loup, il est là.
Bien sûr que c'est fondamental, mais s'il n'en parle pas, s'il hésite à communiquer sur le sujet, c'est parce que il rencontrera aucun écho. Ouais. C'est-à-dire que, comment dire, la vie est tellement difficile, si vous voulez, là-haut, que on est à un état de survie, et que donc on ne peut pas entendre ce genre d'argument, malheureusement, parce que c'est vrai que la vérité, c'est ça, c'est cette chaîne-là. Mais il y a un tel fossé actuellement, encore une fois, entre la biodiversité, les représentants de la biodiversité et les éleveurs, qu'il va falloir peut-être une ou deux ou trois ou même 5 années avant que ce fossé soit comblé, malheureusement. Mais il le sera un jour, j'en suis sûr.
Les mots s'envolent et retournent sans cesse à leur lieu de naissance, le silence.
Pourquoi ça vous plaît, que vous avez besoin de mettre des mots, justement, sur ce pays qui est vraiment le vôtre? Ou sur ces pays?
Sur ces pays, parce que ça correspond à ce que j'ai connu. C'est-à-dire, moi qui suis né dans un village et qui ai vécu toute mon enfance dans une liberté absolue, dans les bois, les forêts, les rivières, les ruisseaux aussi, je suis toujours à la recherche de ce que j'ai perdu en grandissant. Et donc, c'est une manière pour moi de retrouver ce monde-là, un monde auquel je tiens beaucoup, qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui, et que j'emporterai avec moi quand l'heure sera venue, probablement, ouais. Parce que ce sont des choses qu'on n'oublie jamais, et qui sont en nous intimement.
Pendant que je respire encore cet air-là, de Corrèze et des mille vaches, que peut-on vous souhaiter, Christian Seigneur?
On peut me souhaiter de garder le contact avec ce monde-là. Ce monde qui est indispensable à ma vie, que j'aime énormément, parce que comme le disait Jean Giono, le monde n'appartient pas à ceux qui le possèdent, mais à ceux qui le contemplent.
Eh ben, grand merci à vous, Christian Signol.
Merci, Denis, merci à vous.
Et puis à bientôt, j'espère.
Et à bientôt.
Les mots s'envolent sans laisser d'autres traces qu'un rayon de lumière, qu'un peu d'air.
Émission colorisée, on l'a senti, par Xavier Pestugia, et donc notre collaboratrice aussi était Camille Blanès. Ça a été mixé par David Dibouet-Black, et donc je vous renvoie à cet ouvrage, donc D'une beauté sauvage, chez Albin Michel de Christian Signol, avec d'ailleurs aussi des personnages féminins qui sont toujours l'antithèse des hommes, qui sont assez machos et assez guerriers, et elles ont vraiment une très jolie place. Voilà, donc sur ce sujet, on va dire un petit peu d'actualité, mais qui n'est pas un documentaire, hein, qui est vraiment un roman. La semaine prochaine, je vais vous emmener dans le parc naturel régional des Bauges. Où sommes-nous ? Eh bien, nous serons entre Savoie et Haute-Savoie, avec grand plaisir, portrait d'une femme tout à fait intéressante. Abonnez-vous à CO2 Mon Amour, n'hésitez pas sur l'application Radio France, ainsi que les éditos de CO2, vous les retrouverez donc à part. Je vous retrouve aussi sur Instagram, LinkedIn, Blue Sky, et puis bon, l'essentiel, je vous souhaite surtout une très très bonne fin de dimanche.